Dum 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 dum.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette première édition 2026 de votre magazine d'info locale sur Radio B, l'un dans l'autre. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Dans cette édition de rentrée, on aborde une question essentielle à la croisée du logement et de la protection des personnes, celle des violences conjugales. Quitter un conjoint ou une conjointe violent, c'est souvent une urgence, mais c'est surtout un parcours complexe marqué par une difficulté majeure, se loger. Droits, démarches, maintien dans le logement, accès à un hébergement d'urgence ou à un logement durable, le cadre juridique existe, mais il reste mal connu. Pour mieux comprendre quels sont les recours possibles et comment être accompagné, nous avons interrogé Fabienne Comte, juriste à l'ADIL de l'Ain, l'association départementale d'information sur le logement.
On l'écoute tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Trois événements proposés par la Maison des droits de l'enfant.
Suite à un diagnostic sur le département de l'Ain, mené auprès de professionnels de l'enfance, de bénévoles associatifs et d'élus, il en est ressorti que la question des droits de l'enfant n'était pas un sujet spécialement abordé dans le parcours éducatif de l'enfant. Il a aussi été remarqué qu'il manquait du lien entre les acteurs éducatifs du territoire et d'actions de formation. C'est pour ces raisons que la Maison des droits de l'enfant a été créée. Ce lieu a différents rôles, dont celui d'être un pôle ressource documentaire sur les droits de l'enfant. Dans ce cadre, trois événements à venir sont proposés. Le 26 janvier, avec l'inauguration de la Maison des droits de l'enfant et la présentation du rapport annuel sur les droits de l'enfant concernant le droit des enfants à une justice adaptée. Le 27 janvier, avec une conférence « Emprise et complotisme » sur Internet et dans la vie quotidienne. Et le 29 et 30 janvier, avec une formation « Enfants des sectes ».
Ces événements sont gratuits et sur inscription. Porte ouverte à la MFR de l'Ain.
Les maisons familiales rurales proposent des formations par alternance à partir de la 4e jusqu'au bac plus 5 dans 18 secteurs d'activité, notamment dans des domaines de l'agriculture, de la restauration, les métiers du bois et bâtiment, des services à la personne ou de la petite enfance. En France, ce sont 430 associations MFR qui forment par alternance chaque année près de 100 000 personnes. Chaque MFR est géré par une association Loi 1901 et dans l'Ain, il existe 6 structures, à Bagel-Châtel, à Ballan, à Perona, à Montluel, à Pont-de-Vel et à Cormoranche en Bugey. Pour découvrir les MFR de l'Ain, voici les dates de leur porte ouverte. Samedi 31 janvier et samedi 21 mars, de 9h à 17h, dans toutes les MFR du département. La prise de rendez-vous est conseillée.
Les actions prévues par France Alzheimer de l'Ain.
L'association France Alzheimer de l'Ain a pour rôle l'écoute des familles touchées par la maladie. En les aidant à comprendre le comportement du malade, en les soutenant psychologiquement, en les informant sur les droits sociaux existants, sur la présence de services d'aide et de soins en lien avec les centres locaux d'information et de coordination gérontologique. Pour cette année, plusieurs actions sont prévues, notamment auprès des aidants, comme des activités partagées aidants-aidés, les lundis de 14h à 17h durant le premier trimestre 2026, une formation animée par un psychologue ou encore un groupe de parole qui aura lieu un vendredi par mois courant 2026 sur Bourg-en-Bresse, l'occasion de participer à un temps de partage et de soutien. Pour plus de renseignements, contactez le 04 74 52 10 90 ou par mail à contact01@francealzheimer.org.
L'un dans l'autre, l'interview.
Nous sommes avec Fabienne Comte, juriste à l'ADIL de l'Ain, association départementale d'information sur le logement. Elle nous explique quels sont les droits des victimes de violences conjugales en matière de logement, les dispositifs existants et le rôle de l'ADIL dans l'information et l'accompagnement des personnes concernées. Une interview pour comprendre, s'orienter et rappeler que des solutions existent.
Lors d'une séparation ou en cas de violence conjugale, quelles sont les principales questions liées au logement ?
Nous, c'est à l'occasion de visites sur le sujet du logement que nous pouvons être confrontés à cette problématique de la séparation pour violence conjugale. Nous pouvons rencontrer des personnes qui sont locataires ou propriétaires et qui ont, à partir de là, des besoins d'être hébergés dans l'urgence ou qui font état de difficultés pour se reloger, dans la mesure où elles n'ont pas que le problème du logement à gérer, et c'est parfois compliqué.
Donc les personnes viennent vous voir parce qu'elles subissent des violences conjugales? Comment ça se passe exactement?
Non, pas du tout. Elles ne viennent pas nous voir parce qu'elles subissent des violences. Elles viennent nous voir pour une question de logement, en disant « j'aimerais vendre le logement, mais mon conjoint s'y oppose ». Alors on essaye de comprendre pourquoi il s'y oppose. Est-ce qu'il ne veut pas lui-même racheter votre part? Est-ce qu'il ne veut pas vendre? Pour quelles raisons il ne veut pas vendre? Donc c'est en posant des questions à l'occasion d'un entretien que peut arriver parfois, mais la personne ne vient pas pour ça, la question des difficultés dans le couple qui parfois sont importantes.
Alors dans ce cas, est-ce que ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes ou bien qui sont envoyées par d'autres structures ?
Généralement, quand elles viennent en rendez-vous pour une question logement, elles viennent plutôt d'elles-mêmes. C'est plutôt dans le cadre d'appels téléphoniques, qui est plus anonyme, qui est peut-être plus protecteur pour la personne, qu'elles se livrent plus facilement et qu'elles disent « j'ai été envoyée par mon assistante sociale » ou « c'est une amie qui m'a parlé de vous parce que j'ai un problème de logement avec mon conjoint, je suis locataire, je voudrais partir, je ne sais pas comment m'y prendre, je subis des violences, je ne sais pas comment m'y prendre ». On peut dire que ça a commencé aussi avec le Covid. On a eu pas mal d'appels pendant le Covid où les gens étaient comme tout le monde confinés et donc ces problématiques se sont accrues pendant cette période-là. Et je me souviens particulièrement d'une personne qui appelait le matin avec un téléphone qu'on lui prêtait et qu'elle laissait son téléphone sur son lieu de travail la nuit pour que son conjoint n'ait pas accès à son téléphone. Elle craignait vraiment qu'en prenant son téléphone, il la prive aussi d'un certain nombre de contacts dont elle avait besoin.
Donc, de manière très pragmatique, dans un couple, locataire, propriétaire, peut-être que la législation est différente, comment est déterminé celui qui reste dans le logement, celui qui doit partir en cas de séparation?
Alors, en cas de séparation avec violence, on va dire que tout va dépendre des mesures qu'a pris la personne. La victime de violence aura intérêt à déposer plainte. On fait bien la différence entre la plainte et le signalement, parce que seule la plainte peut déclencher des poursuites. Si cette plainte déclenche des poursuites de la part du procureur, cela peut mener, dans les situations les plus graves, de manière immédiate, à l'éviction de son conjoint. Mais le procureur a aussi d'autres mesures, d'autres prérogatives à sa disposition, telles que demander au conjoint de ne pas résider à proximité, de ne pas rencontrer certaines personnes. Il peut prendre des mesures concernant la jouissance du logement et définir qui prendra en charge les charges de loyer ou les charges de crédit.
On imagine que tout ça, ça prend du temps.
Tout dépend du niveau des violences, tout dépend ce dont la personne se plaint et ce qu'elle apporte comme élément. Le fait de déposer plainte, ça va lui permettre aussi d'avoir accès à un médecin, d'être accompagné, d'avoir accès à des intervenants sociaux, à la VEMA. Ça déclenche un certain nombre de processus pour qu'elle soit accompagnée et le procureur prend sa décision ensuite, à la suite de l'instruction. Donc, effectivement, s'il n'y a pas suffisamment d'éléments, il peut y avoir un classement sans suite. C'est pas évident. Les personnes, souvent, ont peur pour elles-mêmes et encore plus pour leurs enfants, généralement, peur de les perdre, peur de faire ces démarches-là. Et pourtant, c'est vraiment la plainte qui peut déclencher, au niveau du procureur, une réaction rapide si les faits sont avérés, si la personne est réellement dans une situation de danger. Au point de vue judiciaire, il y a aussi une action civile qui est possible. C'est une demande d'ordonnance de protection. C'est une démarche auprès du juge civil. On ne va pas déposer plainte pour cela. C'est-à-dire que concrètement, il y a un formulaire CERFA qui peut être rempli, adressé au tribunal pour solliciter du juge la prise d'une mesure de protection, d'une ordonnance de protection. le dispositif est relativement rapide, puisque à partir du moment où le juge fixe une audience pour entendre les deux parties, séparément s'il le faut, il dispose d'un délai de 6 jours pour rendre son ordonnance. Si vous vivez avec quelqu'un de violent, le but pour vous protéger, c'est d'obtenir des autorités, que ce soit le procureur par la plainte ou le juge civil par la prise d'une ordonnance de protection qui va s'imposer à la personne. Évidemment, il y a aussi des associations qui peuvent aider à peut-être trouver un hébergement d'urgence, mais concrètement, sur la notion d'hébergement d'urgence, il faut s'en référer au 115. C'est vraiment la porte d'entrée pour aller solliciter de l'hébergement, parce que c'est le SIAO, le 115, c'est le service d'intégration et d'orientation, qui a pour mission d'attribuer des places d'urgence aux personnes.
Elles sont sur un territoire où vous êtes souvent confronté, vous, en tant que professionnel à la DIL, à ce genre de situation?
Non, c'est pas la majorité des appels ou des visites que nous avons, parce que nous ne sommes pas identifiés comme une association qui œuvre pour la protection des victimes de violences.
En fonction du lien qu'on peut avoir avec son conjoint, sa conjointe, qu'est-ce qui change si on est paxé, marié ou juste si on vit en concubinage?
Il peut y avoir des différences quand on veut, par exemple, quitter son logement et qu'il est en location. Il y a un principe qui va être différent suivant les personnes mariées, paxées et concubins. C'est le principe de co-titularité du bail. Quand on est marié et quand on est paxé et que le bail a été fait aux deux noms, ce qui entraîne une solidarité des paiements. C'est une solidarité à l'égard du bailleur qui va courir jusqu'à l'inscription dans les actes d'état civil du jugement de divorce ou de la rupture du pax. Donc ça, c'est une situation normale. Donc, quand on se sépare et qu'on est dans cette situation-là, on ne peut pas ni arrêter de payer, bien sûr, ni opposer à son conjoint le fait qu'on veuille quitter le logement. Donc il y a des mesures qui sont prises pour les personnes qui sont victimes de violences. C'est premièrement la fin de la solidarité. Vous avez la plupart du temps un bail avec une clause de solidarité qui fait que le bailleur peut s'adresser à l'un ou à l'autre pour payer la totalité du loyer. Donc, la victime de violence qui va pouvoir notifier à son bailleur une ordonnance de protection dont elle bénéficie ou qui va pouvoir lui communiquer la copie d'une condamnation pénale à l'égard de son conjoint de moins de 6 mois, elle va pouvoir revendiquer d'être désolidarisée du paiement du loyer dès le lendemain de la première présentation de sa lettre à son bailleur. Et la désolidarisation va pouvoir casser ce principe de « je suis solidaire jusqu'à ce que le jugement de divorce soit inscrit dans mes actes d'état civil ». Ça, c'est une mesure importante. Si elle veut quitter le logement, elle pourra bénéficier d'un préavis de 1 mois.
On n'a pas encore abordé ce sujet, mais s'il y a des enfants, si on a des enfants en commun, est-ce que ça change quelque chose ?
Dans le cadre du partage ou de la discussion autour de l'autorité parentale, à tout moment, le conjoint, qu'il soit marié, paxé ou concubin, peut faire appel au juge pour décider du partage de la résidence ou de l'attribution de la résidence principale à la victime.
Que peut faire une victime lorsque son conjoint refuse de partir ou menace d'utiliser le logement comme moyen de pression ?
Alors, c'est sûr que si elle n'a pas de décision judiciaire en sa faveur, elle ne peut pas faire grand-chose. Tout dépend. Alors là, si, par exemple, elle est seule titulaire du bail ou si elle est seule propriétaire du logement, elle pourra engager une procédure pour obtenir l'expulsion de la personne avec qui elle vit. Mais en sachant que le logement, la résidence principale du ménage, de la famille, est sanctuarisée, qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi non plus.
Qu'est-ce que ça veut dire sanctuarisée ?
Sanctuariser, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, vendre le logement tout seul.
Mon conjoint refuse, enfin mon ex-conjoint refuse de quitter le logement. Voilà. Est-ce que je peux prendre toutes ces affaires et les mettre sur le palier ?
S'il est colocataire avec vous, ou si vous êtes marié, ou si vous êtes copropriétaire de ce logement, non. Alors, ce qui est peut-être utile de dire, c'est qu'il existe un certain nombre d'aides financières qui peuvent être déclenchées pour soutenir la personne victime de violence. Je pensais notamment à l'aide universelle d'urgence qui peut être accordée à toute personne résidant en France et qui subit une situation de violence. La démarche est assez simple, puisque suivant son régime d'appartenance, elle va s'adresser à la CAF ou à la MSA. Elle va pouvoir remplir un formulaire CERFA sur le site de la CAF, par exemple, et justifier d'une ordonnance de protection, d'un récépissé de dépôt de plainte, ou bien même d'un signalement au procureur. Alors, il y a quelques conditions, mais c'est les justificatifs qu'il faudra apporter pour bénéficier d'une aide dont le montant va dépendre de sa situation familiale, si elle est seule ou avec des enfants. Et cette somme sera attribuée sous forme de don ou sous forme de prêt.
On remercie Fabienne Combe pour sa disponibilité et ses explications. Pour toute question liée au logement, l'ADIL propose une information gratuite, neutre et confidentielle. Vous pouvez les contacter directement ou vous rendre sur le site anil.org, rubrique ADIL, avec votre numéro de département. Et si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, le numéro national est le 3919 et gratuit, anonyme, accessible 24 heures sur 24. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.